Chapitre 3. Mon cher professeur, quel grand plaisir de vous revoir. David Wallenberg, avec le sourire jovial que Bayeux lui avait toujours connu, avançait vers lui, les bras largement entrouverts, comme pour l'embrasser. Grâce à sa carte de médecin, Bayeux avait pu franchir sans difficulté les barrages qui séparaient l'entrée de la rue de Grenelle du bureau de Wallenberg. Il avait été tout étonné d'apprendre le matin même que l'ancien chef de cabinet du ministre de la Santé travaillait désormais, depuis juillet 1968, au ministère pilote de l'Éducation nationale. Il est vrai qu'il avait déjà fait merveille dans presque tous les ministères, à l'exception peut-être des sports, où sa pesante corpulence de 110 kilos aurait jeté le trouble chez les fragiles secrétaires. « Il n'a pas vieilli d'une ride, » pensa Bayeux en lui serrant la main. Pourtant, il a bien 15 ans de plus que moi, l'infect personnage. Ah, comme je suis heureux de vous revoir. Venez donc dans mon cabinet. Nous y serons tout à l'aise pour discuter. Wallenberg fit pénétrer le médecin dans un bureau que Bayeux s'attendait à voir crouler sous les dossiers. Mais Wallenberg, servi par une mémoire prodigieuse, n'aimait pas les dossiers. Tout juste pouvait-on voir sur sa vaste table de travail quelques lettres et un dictionnaire. « Ainsi, mon cher Wallenberg, vous voilà maintenant à l'Éducation nationale. » Wallenberg éclata d'un grand rire, tout en dégrafant le premier bouton de sa chemise et en desserrant sa cravate à pois. « Il fallait s'y attendre. J'ai toujours été un cancre à l'école. J'ai dû redoubler ma rhétorique. Il m'a fallu 6 ans pour décrocher une licence d'allemand, alors que c'est ma langue maternelle. Avec un tel curriculum vitae universitaire, vous avouerez que ce poste à l'Éducation nationale me revenait de droit. » Au reste, je ne fais aucun complexe d'infériorité. Quand je vois les doctes pédants, spécialistes en chambre de la pédagogie nouvelle vague, qui gravitent autour de mon bureau. Au fond, je suis né trop tôt. Aujourd'hui, de rondes jambes en promotions internes, je décrocherai sans mal une agrégation postiche. Bayeux se sentit soudain heureux de revoir cet homme à la fois franc et rusé, qui en effet devait être à l'aise dans la politique. Comme un requin dans l'eau, pensa-t-il. « Votre réussite aura toujours fait mon admiration, mon cher Wallenberg. Entre gens qui ont réussi, mon cher professeur, nous n'aurons pas de secret. Votre carrière est d'ailleurs plus brillante que la mienne. Je ne suis qu'un mercenaire, mais pas un idiot. En fait, le secret de ma réussite, et vous êtes un des rares à qui j'ose l'avouer, mais un médecin est comme un confesseur, n'est-ce pas? Oui, le secret de ma réussite est bien simple. J'ai toujours refusé de dévoiler le fond de ma pensée. Je m'adapte aux circonstances, aux humeurs de nos ministres, à la démagogie ambiante et à la pollution intellectuelle. Je me contente de lever l'index tous les matins pour voir d'où vient le vent. Vous allez me prendre pour un cynique, et vous n'aurez pas tout à fait tort. Ici, je suis conseiller, c'est-à-dire que je me garde bien de donner le moindre conseil à des farceurs qui sont sûrs d'avoir raison. Les ministres changent, les têtes tombent, les chrysanthèmes fleurissent. Mais Wallenberg reste. Parce que Wallenberg fait son travail et ne coupe pas les cheveux en quatre. Talleyrand avait raison. En politique, la trahison est affaire de tâte. Et les électeurs sont toujours cocus. J'imagine que par les temps qui courent, vous ne devez pas manquer d'attraction. Par les temps qui courent, vous voulez dire qu'ils galopent. Je ne me suis jamais autant amusé. Pourtant, dans ce métier, les occasions de rire ne manquent pas. Je n'ai jamais travaillé sous les ordres d'un ministre aussi brillant, aussi habile et aussi hilarant. Le pire, vous ne me croirez pas, car ça aussi c'est nouveau, c'est qu'il a la foi, un vrai Niagara. Inutile de vous le dire, je pense, je suis un des nombreux préposés aux réformes. Je préside 1001 commissions et sous-commissions dont les conclusions sont connues d'avance. Nous réformons avec la même ardeur qu'un jeune chirurgien entaille les abdomens. Et passez-moi le bistouri, compresse. « Plus vite, bon Dieu! Hémorragie, colmatez-moi ça et coupez tout ce qui dépasse tant que vous y êtes. » Il faut dire que notre bouillant Edgar a ça dans le sang. Son père était médecin militaire. Wallenberg suait à grosses gouttes et dut s'arrêter un instant pour s'essuyer le front. « Que voulez-vous » reprit-il. « Notre pauvre malade a un cancer généralisé. On ne sait plus où donner de la tête. Mais on réforme. Ah, ça, on réforme. Et ça ne fait que commencer. Si la locomotive ne s'essouffle pas, il n'y aura plus d'école dans 10 ans. Quant à l'université, n'en parlons plus. C'est un cadavre en décomposition. On se contente de l'orienter à gauche ou à droite, selon la fantaisie des vents, pour éviter que l'odeur ne nous prenne trop à la gorge. Si je vous disais que dans certaines facultés, les taux de réussite aux examens frisent les 100%, la vraie pétaudière. Un de nos professeurs de faculté, spécialiste de Baudelaire, s'est recyclé comme kinésithérapeute en Polynésie. Il a raison, le finot. Maintenant, il caresse les vaillinés au lieu de se faire peloter par les gauchistes, les fascistes ou les CRS. Mieux vaut les îles sous le vent que les grèves dans le vent, croyez-moi. À propos, vous connaissez le pape de Cuernavaca?
Pardon?
Mais oui, Ivan Illich, un ecclésiastique en rupture de ban, un polyglotte dont le charabia est la langue maternelle. Ce phénomène est un prophète. Nous sommes dans un cul-de-sac. L'école est une vache sacrée qu'il faudra bien envoyer à l'abattoir. Tout est foutu. Notre société a la gangrène. On lui fait des transfusions à haute dose, mais puisque le malade est condamné, ça ne sert à rien, sinon à mettre la sécurité sociale en déficit. Je me faisais la même remarque, pas plus tard que tout à l'heure. Je suis vraiment désolé de prendre votre temps, car vous ne devez pas manquer de travail. J'adore le travail. Dans une demi-heure, je reçois les syndicats progressistes. La meute, wah, wah. Si vous voulez comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe actuellement chez nous, il faut vous imaginer un pauvre homme affolé, notre ministre, poursuivi par une meute de chiens sauvages, en l'occurrence ces chers braves des syndicats progressistes. Les autres, on les reçoit moins, réforme oblige. Alors le pauvre homme leur jette un biscuit de temps en temps, une de nos réformettes, et distance les chiens pendant quelques minutes, le temps qu'ils se partagent le biscuit à coups de dents. Et la poursuite recommence. Nouveau biscuit, nouveau sursis pour le ministre, c'est-à-dire pour vous et moi, pour notre société pourrie mais finalement libérale. Quand il n'y aura plus de biscuit, le ministre sera dévoré en moins de 2, et nous avec. Mais avouez que je vous ennuie avec mes histoires. Alors que vous n'êtes sûrement pas venu me voir pour apprendre comment se portait ce qu'on appelle par antiphrase l'éducation nationale. De toute façon, je ne ferai pas de vieux os ici. Un peu d'air frais me fera du bien. Bayot expliqua à Wallenberg les raisons de sa visite. Et celui-ci leva les mains comme pour expliquer que tout était déjà arrangé. En un sens, mon cher, vous dépendez de moi, puisque vous êtes professeur agrégé. Un de ces mandarins qui constitueront le hors-d'œuvre de nos chiens loups de tout à l'heure. Quant à mes collègues des autres ministères, ce sont tous des amis. Enfin, des amis prêts à me tirer dans le dos comme tous les amis qu'on peut avoir en politique. Tout sera arrangé dans les meilleurs délais. Avec un peu de chance, vous pourrez être mis en disponibilité pour octobre ou novembre. Mais j'imagine que vous me cachez quelque chose, et que vous comptez tirer profit de ce congé pour rédiger quelques livres importants, à moins que ce ne soit un roman policier. C'est très bien porté au ministère, les romans policiers. Non, non, ne me dites rien. Ne faites jamais une confidence à un politicien. Au reste, je n'entends rien à la médecine, pas plus qu'à la pédagogie, d'ailleurs. Au fait, il faudra que nous dînions ensemble un prochain soir. J'en ai marre de grignoter les biscuits tout seul. Il donna un coup d'œil à sa montre. À propos de biscuits, des bataillons de choc vont débarquer dans 5 minutes, l'arme à l'œil et à la bretelle. De toute façon, je serai d'accord avec eux et me contenterai, pour marquer le pas, de me protéger derrière un rempart de chiffres, tous faux d'ailleurs. Le temps de les vérifier et nous aurons gagné 6 mois. C'est toujours ça. Excusez-moi, mon cher professeur. Votre visite m'a enchanté. C'est un plaisir trop rare dans cette maison de fous que de pouvoir parler à des gens qui ne sont pas prêts à vous balancer un cocktail Molotov en plein visage si vous refusez d'admettre toutes leurs inepties. Jean-Louis Bayot serra la main de Wallenberg, à la fois avec chaleur et irritation. Le personnage n'avait pas changé. Si l'heure de la retraite ne sonnait pas trop tôt, le médecin le retrouverait bientôt conseiller au ministère des Kolkhozes ou de la sexualité. Eh non, songea-t-il en traversant l'antichambre où des représentants syndicaux s'agitaient avec de pesants dossiers sous le bras. Je ne le retrouverai ni au ministère des Kolkhozes, ni au ministère de rien du tout. Je ne verrai jamais la grande curée. Il en conclut qu'après tout, la maladie de Hodgkin présentait aussi des avantages. Le professeur Bayot repassa à l'hôpital Léon-Rostand en fin d'après-midi car il lui fallait étudier le dossier des nouveaux internes. Le lendemain, comme il était de tradition, il y aurait la petite cérémonie d'adieu aux partants, peu avant midi, et en fin de journée, la cérémonie de bienvenue aux arrivants. Bayot avait toujours essayé de connaître personnellement chacun de ses internes, de les aider tout au long de leur séjour dans son service, de les conseiller dans leur thèse. Sans doute cela lui donnait-il un surcroît de travail, alors que tant de ses collègues des autres services connaissaient si peu leurs internes que l'un d'entre eux avait souhaité la bienvenue aux partants, ce qui avait soulevé l'hilarité de tout l'hôpital. Mais Jean-Louis Bayot se souvenait encore distinctement de ses années d'internat à Poitiers, et l'aide de son patron, le professeur Cardon, avait été déterminante dans le choix de sa spécialité. Des gens comme Cardon, on n'en fait plus guère, songea-t-il. Aujourd'hui, rien ne compte plus, sinon l'ambition personnelle et la réussite financière, les yachts et les maîtresses. Certes, l'âme humaine n'avait pas dû changer dans son essence depuis des millénaires. Bayot savait bien que les valeurs varient selon les époques. Mais il regrettait que le matérialisme, qui pendant longtemps n'avait touché qu'une infime minorité, fût devenu la valeur suprême de son temps. Il n'appartenait pas à la catégorie de ces prolétaires par recyclage qui condamnaient du haut de leur balcon du 16e la société de consommation et ses appareils ménagers. Toute sa vie, c'est-à-dire pendant encore quelques mois, il se souviendrait de la misère qu'il avait connue dans son enfance. Les jours de froid ou toutes les heures, quand il voulait travailler à la table de la cuisine qui lui servait de bureau, il fallait aller changer la brique qui lui réchauffait les pieds. Sans ces briques, songea-t-il avec amusement et nostalgie, le petit Bayot n'aurait jamais pu rédiger ses devoirs. Son père revenait du chantier avec d'énormes crevasses aux doigts qu'il soignait tous les soirs, pendant l'hiver, avec une pommade que confectionnait le pharmacien du pays. Jean-Louis Bayot se souvenait également de ses lundis de lessive, de ces lourdes bassines d'eau qu'il fallait aller remplir dans la cour, et des mains bleutées de sa mère comme paralysées par le froid. Mais on a la pauvreté orgueilleuse dans la Vienne, et nul ne sut jamais ce qu'il avait fallu de sacrifice à la famille Bayot pour payer des études à leur fils. Le sacrifice valait-il la peine, se demanda-t-il. N'avait-il pas, en un sens, trahi les siens? N'aurait-il pas dû devenir médecin de campagne dans quelque village de Corrèze? Secourir les indigents, ce qui était une des promesses qu'il fallait faire en prêtant le serment d'Hippocrate, ne lui revenait-il pas le droit? Il était allé de succès en succès, et n'avait pas eu le temps de se poser jamais sérieusement la question. Il avait pensé, pendant des années, qu'il était tout aussi utile à rechercher inlassablement le moyen de soulager quelques-unes des maladies les plus malignes qui soient, qu'à recevoir dans un cabinet les visites de malades qui voulait surtout des remèdes, beaucoup de remèdes, des mots de consolation, des prescriptions de pilules contraceptives ou des congés de maladie. Dans quelques années, pensa-t-il, les médecins de quartier passeraient sans doute le meilleur de leur temps à effectuer des curetages ou à stériliser les femmes. Non que l'avortement lui eût jamais paru moralement condamnable. En réalité, cette question le laissait plutôt indifférent. Mais ne valait-il pas mieux d'abord soulager ceux qui souffrent dans leur corps? Il se sentit là soudain, là de tourner sans cesse les mêmes questions sans les résoudre, là de voir toujours trop lucidement les deux aspects d'un problème, là de se demander si l'instant suivant valait la peine d'être vécu. Il lui fallait encore, avant de rejoindre son appartement ce soir-là, passer signer les analyses. Chantal Rillac devait s'impatienter car elle prenait un train de banlieue peu après 19 heures. Il refusa l'ascenseur et se força à monter les 3 étages qui le séparaient du laboratoire. Il ressentait une petite gêne au niveau du cou et se promit de prendre sans tarder des antimitotiques pour oublier cette infime douleur qui lui rappelait trop souvent l'échéance et qu'il avait pourtant très bien supportée pendant des mois. Chantal l'attendait en effet. Cette présence fit du bien au médecin. Il signa les résultats des analyses après les avoir parcourus du regard et il s'apprêtait à partir quand la jeune femme lui fit signe qu'elle voulait lui parler. « Excusez-moi, professeur, vous savez que je ne pose jamais de questions. Pourtant, ce soir, je désirerais vous en poser une. » Bayot s'arrêta près de la porte, surpris de la gravité de sa voix. « Je vous en prie, Chantal, Si je peux vous rendre un service, n'hésitez pas à me le demander. Et excusez-moi d'avoir été aussi froid ce soir. J'ai dû faire quelques démarches administratives. Ce genre de travail m'épuise plus que le reste. C'est au sujet de cette analyse d'hier. Bayot marqua un geste d'énervement. Quelle analyse ? Celle où nous avons trouvé les cellules de Sternberg. Vous vous rappelez, n'est-ce pas ? Venez au fait, Chantal. Que voulez-vous dire ? La jeune femme se tourna vers la fenêtre où le soleil couchant jouait avec les vitres. « Pardonnez-moi, professeur, l'analyse ne vous concernait-elle pas ? » « Qu'est-ce qui vous permet de le penser ?»« Oh, c'est très simple. Le docteur de Lambert était atterré. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je le savais émotif, mais à ce point, j'en ai été moi-même surprise. Il a pris une chaise et m'a fixé comme un fou pendant une longue minute. « Bon Dieu, c'est bien ce que je craignais, » disait-il. J'en avais l'intuition. Ses mains tremblaient. Il était devenu très pâle. Un moment, j'ai cru qu'il s'agissait de lui. Mais l'idée m'est vite apparue comme ridicule, car si ça avait été le cas, vous le connaissez, il aurait éclaté d'un grand rire et m'aurait tout au plus pincé les « Oh, excusez-moi. » Qu'a-t-il ajouté ? Rien du tout, rassurez-vous. Il a pris les résultats de l'analyse et il s'est enfermé dans son bureau pendant un long quart d'heure. Alors j'ai compris que c'était vous, professeur, qui aviez la maladie de Hodgkin, que seul l'état de votre santé pouvait l'ébranler aussi profondément. Ainsi, voyez-vous, nous serons trois à savoir. Mais ça ne change rien. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Le professeur Bayot s'était rapproché de Chantal Rieck et lui avait pris la main. Je vous remercie, Chantal. C'est fou comme nous semblons tous avoir de l'intuition ces jours-ci. Moi d'abord, Lambert ensuite, et vous enfin. Cela rachètera sans doute les cas où nous avons tant manqué de finesse. Mais nous en avons terminé ici. Vous allez manquer votre train. Venez, je vais vous conduire en voiture. Chantal rangea les dossiers, alla prendre son imperméable et suivit le professeur à travers les couloirs de l'hôpital. Ils montèrent dans l'automobile qui déboucha bientôt au boulevard du Montparnasse. « Cela vous ennuierait beaucoup si je vous amenais chez moi prendre un verre ?» murmura Bayot en bifurquant sans attendre la réponse vers le boulevard Saint-Michel pour rejoindre la rive droite. « Rien ne me ferait plus plaisir, professeur. Le solitaire que vous êtes n'a pas dû recevoir beaucoup de jeunes femmes dans sa tanière. Le loup est bien vieux, Chantal, et vous n'êtes pas le petit chaperon rouge. » C'était la première fois, en effet, que Jean-Louis Bayot invitait une femme chez lui, en dehors de la présence de Corinne. Le mot de Chantal, votre tanière, avait été bien choisi, et depuis son divorce, seul Yves de Lambert y avait régulièrement rencontré Bayot le samedi soir. On y découvrait ce qui, avec la médecine, avait été l'unique passion de sa vie, la littérature. Des milliers de livres reposaient sur des rayons. Il n'était pas vraiment bibliophile, mais la lecture était son seul plaisir. Et que de fois Corinne ne lui avait-elle pas reproché cet appétit de la chose imprimée, qu'elle-même jugeait ridicule. Pourtant, Bayot savait qu'il en était ainsi pour beaucoup de ses confrères. Il avait rencontré plus d'authentique amour de la littérature chez certains médecins que parmi ses professeurs d'université qui réduisent à un jeu de construction toute la genèse d'une œuvre d'art. Des jargonneurs prétentieux, disait-il parfois en parcourant distraitement les savantes critiques de quelques revues prétendument littéraires que lui apportait Lambert. Du reste, la médecine n'avait-elle pas fourni à la littérature autant de noms prestigieux, de Rabelais à Céline, que les professeurs tout juste bons à découper en tranches ce qui avait été écrit avec le sang de la souffrance et de la détresse. La preuve, lui avait dit un jour Lambert, qui avait d'ailleurs publié un roman humoristique dans sa jeunesse, oui, la preuve que tous ces débiteurs n'y comprennent rien, ils veulent supprimer la littérature des programmes sous prétexte que c'est inutile, alors que ce sont les grands livres qui aident à vivre. Alors que la littérature nous en apprend plus sur la nature humaine que tous les traités de philosophie. Alors que les grandes découvertes ont été pressenties par des écrivains parfois plusieurs siècles auparavant. Freud était un génie, malgré son charabia et les extravagances de ses successeurs. Mais, après tout, Rousseau et plusieurs autres avaient découvert l'inconscient avant lui. En pénétrant ce soir-là avec Chantal dans la pièce qui lui servait à la fois de bureau et de bibliothèque, Jean-Louis Baillot ressentit soudain la tristesse qu'il aurait à s'arracher à ses livres, à son Sénèque, à son Montaigne, aux œuvres complètes de Shakespeare ou de Monterland. Car c'était ses livres, tout autant que la médecine, qui lui avaient appris à accepter son destin. « Votre bureau est bien tel que je l'imaginais, » murmura Chantal, en ôtant son imperméable. « C'est la pièce d'un homme studieux, mais qui est peut-être passé à côté de la vie. » Jean-Louis Baillot se réjouissait et s'étonnait tout à la fois de la hardiesse des propos de sa collaboratrice. Il la connaissait depuis 3 ans. Quel âge avait-elle au juste? 25 ans peut-être? Il l'avait toujours trouvée pleine de charme et d'intelligence. Il aimait ses yeux verts, ses cheveux blonds et la sensualité qui se dégageait de tout son corps. Mais si leurs rapports avaient été courtois et presque amicaux, ils étaient restés impersonnels. Baillot ne savait rien d'elle. L'année précédente, Baillot avait cru que Lambert avait une liaison avec elle. Cela expliquerait peut-être comment Chantal avait pu percer, mieux que tout autre, la détresse de son confrère découvrant le résultat des analyses. « Non, Chantal, je ne suis pas passé à côté de la vie. Tous ces livres en sont justement la preuve. Est-ce ma faute si la vie ne m'a pas apporté beaucoup d'agréments personnels? Mon travail? Oui, je sais, votre travail, vos recherches, vos malades. Mais ne pensez-vous pas que la vie soit autre chose? C'est la question que je me pose depuis longtemps, et plus intensément depuis hier soir. Cependant, je n'arrive pas à m'imaginer autre que je suis. Mais vous allez prendre quelque chose. Je vous préviens tout de suite, le choix est très limité. Lambert en sait quelque chose. Il ne vient jamais me voir sans une bouteille de whisky dans sa serviette. Je déteste ces gens qui jouent au barman et exhibent leur collection de bouteilles rares comme d'autres leurs décorations. Alors, que prenez-vous? Un martini? J'ai bien l'impression que c'est tout ce qui me reste. J'adore le martini, mais un verre d'eau aurait fait aussi bien l'affaire. À propos de décoration, est-il exact que vous ayez refusé celle qu'on vous a proposée? Baillot éclata de rire. Je vois, Chantal, que vous n'êtes pas seulement une excellente laborantine, mais aussi une bonne détective. Oui, j'ai tout refusé, mais on ne m'a pas encore proposé le prix Nobel. Dommage. Car dans ce cas-là, j'accepterais, ne serait-ce que pour ne pas imiter Sartre. J'ai refusé cette ferblanterie pour 2 raisons. La première est que je déteste tout ce qui a un rapport avec la politique. J'aborde ce régime, bien que personnellement je n'ai pas à m'en plaindre. Mais je déteste tous les régimes, quels qu'ils soient. Celui-ci me semble un peu plus carnavalesque que les autres. Mais il y en a de moins libéraux. La 2e raison est sans doute la seule qui soit importante à mes yeux. Je crois la connaître. C'est l'orgueil, n'est-ce pas? C'est l'orgueil, en effet. Un vieux mot bien français et de ce fait fort oublié. L'orgueil qui, de l'âge de 11 ans à ce jour, m'a fait devenir ce que je suis. Je dis bien l'orgueil, pas la prétention de ces cuistres qu'on voit parader sur les écrans, ceux qui ont besoin des projecteurs pour sentir enfin qu'ils existent. Ce n'est ni la suffisance, ni l'arrogance, ni la vanité. C'est, si vous voulez, un certain besoin de hauteur et de distance. Vous devez me trouver bien injuste, car beaucoup de ces gens que je critique sont dans le fond d'excellentes personnes qui se dévouent, comme on dit, à la grande cause de l'humanité. Comme vous, professeur. Évidemment pas. Je crois vraiment que je n'ai jamais pensé qu'à moi. Mon fils, quand il vivait ici, m'empêchait de lire, et j'attendais qu'il parte en vacances pour être tranquille. Corinne, ma femme, excusez-moi de vous en parler, fut toujours pour moi une étrangère, que j'aimais bien sans doute, mais que je n'aimais pas au fond. Même dans les moments de rare intimité, je pensais à autre chose. J'étais ailleurs, toujours ailleurs. Je n'arrivais pas à déconnecter. C'est que vous n'étiez pas fait pour elle. Comme vous l'avez dit vous-même, vous ne l'aimiez pas. Sinon, votre vie aurait pris une autre dimension. Peut-être. On ne se force pas à aimer. C'est quelque chose qui ne se raisonne pas. Non, hélas, c'est quelque chose qui ne se raisonne pas. Un long silence s'ensuivit. Le regard de Baillot croisa celui de Chantal, et il devina sans mal ce qu'elle avait voulu dire, ce qu'il n'aurait jamais soupçonné jusqu'alors. Il pensa de nouveau que tout ce qui lui arrivait depuis 24 heures était totalement ridicule, qu'il ferait mieux de se lever de ce divan où ils étaient assis, de prétexter un rendez-vous, de redevenir le professeur qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être. Mais en même temps, une immense tendresse le saisit. La vie coulait, fuyait. Demain, elle ne serait plus. Son orgueil l'empêcherait-il donc d'être toujours comme les autres, homme au milieu des hommes? Y avait-il quelque chose de plus désirable qu'un instant de bonheur et d'oubli? Il voulut parler, mais sa voix resta muette. Lentement, il tendit la main vers Chantal. Des larmes coulaient de ses yeux. Elle vint se blottir contre lui.